Chapitre 20. Madame Christelin l'exigeait, donna, malgré sa timidité triste et farouche, à la voir les amis qui semblaient l'oublier. Il partit le dimanche matin de bonne heure avec Jacques. À 18 ans, il n'y a guère de chagrin qui ne s'évapore comme la rosée au soleil, dans la joie chaude des jeunes de marcher sur l'herbe, de sauter et de bondir, de respirer l'air qui vibre autour de vous comme un cristal ténu. Jacques était moins exubérant que la veille. « Parle-moi encore, » fit Donna avec quelque naïveté. « Tu ne doutes de rien, mon petit, » répondit Jacques en s'arrêtant pour le viser avec une pierre qu'il ramassa. « Parce que je t'ai tenu hier une conférence pour toi tout seul, tu crois n'avoir qu'un mot à dire et le feu d'artifice recommencera. Non, ce sont mes camarades que tu entendras aujourd'hui. » « Je vais à l'église, moi, ce matin, » fit Donna. « Parfaitement, toutes les convictions sont libres. Moi, je n'y vais pas. »« Si tu y venais, » murmura son compagnon en rougissant un peu. « Ah, ça, toi ? » s'écria Jacques. « Est-ce que je t'ai dit « n'y va pas ?»« Non, eh bien alors, de quel droit me dis-tu « viens-y »« Il n'y a pas grand mal. » « Il y a que, si je ne te réprime tout de suite, tu te feras un devoir de discuter mes opinions et de me proposer les tiennes. »« C'est défendu ? » demanda Donna un peu ironiquement. « Oui, je tiens l'opinion religieuse pour un domaine réservé. »« Vous n'en parlez jamais entre vous ? » ?»« Nous sommes tous du même avis. » »« Alors, parce que je ne suis pas du même avis, tu m'imposes silence ?» « Ah, laissons là la chipote !» fit Jacques, jetant ses bras en l'air et s'étirant, et se faisant craquer les os, par pur plaisir de sentir jouer des articulations jeunes et souples. « Tu vois ce sapin, là-bas ? Une course ? 1, 2, 3 !» Comme ils étaient partis trop tôt, ils s'assirent, avant d'arriver, sous un groupe de beaux frênes au bord de la dernière pente. Ils regardèrent à leurs pieds la petite ville, serrée comme un flot à l'étroit et s'écoulant vers l'ouest, dans la vallée profonde et longue. Les vagues des toits bruns s'étalant où elles peuvent, en plissant les vallons qui s'ouvrent et s'embranchent comme des golfes sinueux entre les collines vertes, deux ou trois clochers, d'où la grande harmonie des cloches s'envola tout à coup, en plissant l'air d'un frémissement rythmique. Donna Brunel se leva. « Alors ?» « Tu vas t'enfermer là-dedans ?» fit Jacques avec un geste du menton pour désigner l'église dont le coq de cuivre brillait au niveau de ses yeux. « Quand il fait si bon au soleil sur l'herbe. Tiens, je t'admire. »« Écoute, » fit Donna embarrassée, « ne m'admire pas tant que ça. En sortant de l'église, il m'est plus facile d'aborder les gens Richard. Et ils m'inviteront, ou non, comme cela leur plaira. » Tandis que, si je vais chez eux de but en blanc, je leur force la main, tu comprends ? Non, je ne comprends pas qu'on prenne ces précautions avec des amis, fit Jacques brusquement. Si tu tiens à notre parlotte, trouve-toi 3 heures précises au coin de la rue du Marché et de la rue des Lavoirs. J'y serai et je te conduirai chez notre camarade Guillaume, où est le rendez-vous. Si je n'y suis pas à 3 heures, ne m'attends pas, fit Donna pour conclure. Car il espérait, oh combien il espérait être à ce moment-là dans la compagnie d'Esther. Il ne lui fallut pas beaucoup de manœuvres pour rencontrer Émer Jean-Richard sous le grand portail de pierre grise à la sortie. « Tiens, mon garçon, c'est toi ? Et comment ça va ?» demanda l'horloger d'un ton cordial. « Excuse-moi une minute, je guette Esther. Elle doit sortir par l'escalier de la terrasse. » « Je la vois, » fit Donna qui rougit en même temps. Qu'elle lui parut belle, sa reine Esther, dans la claire toilette de percale et le petit chapeau couvert de narcisse blanc, qui n'avait pas coûté cher et la faisait fraîche et gracieuse, comme le mois de juin en personne. Elle s'approcha, elle sourit. « Toi, Donna, quelle chance ! Maman prétendait ce matin que tu nous avais reniés. » Mais fit Donna avec la sincérité qui l'obligeait à dire toujours exactement ce qu'il pensait, « J'attendais votre visite. »« Voyez-vous ça ?» dit Esther en riant. Et la situation se trouva réglée par ces deux mots vagues et Donna sentit une blessure se fermer, une confiance refleurir. La vie s'éclaira, il ne désira plus mourir, ah, pas du tout. Crois-tu, fit Jean-Richard en regardant sa fille, crois-tu que ta maman est à dîner pour quatre ?
Papa, c'est le pot-au-feu, répondit Esther scandalisée.
Dans ce cas, mon garçon, si le cœur t'en dit, tu nous feras plaisir. Tu es toujours le bienvenu.
De phrase en phrase, par ce petit crescendo, il cherchait le brave homme à se persuader que la visite de Donna leur causerait à tous une vive joie. Il n'en était pas absolument certain.
« Prends les devants, dit-il à sa fille, va prévenir ta mère. Elle est un peu nerveuse depuis le printemps, ajouta-t-il, nous la ménageons. »
« Si vous pensez que je la dérange, murmura Donna, tout à coup triste comme lorsqu'un nuage passe devant le soleil.
« Non, non, au contraire, puisque ce matin même, elle se plaignait de ton oubli.
« Je ne vous oubliais pas, je vous ai attendu chaque dimanche, protesta le jeune homme.
« Comme nous, alors, faute de s'entendre, n'est-ce pas ?»
On arrivait à la chère petite maison jaune, derrière les bouquets de lilas. Donna, levant les yeux, vit une fenêtre ouverte où des rideaux de mousseline brodée se gonflaient doucement.
« Voilà de bien beaux rideaux, dit-il.
« Oui, un cadeau que nous avons fait à Esther en souvenir des examens. Des broderies de cingale, on ne lui refuse rien, dit M. Jean-Richard en riant.
« Tu comprends, Donna, que lorsqu'on n'a qu'une fille, on voudrait lui donner tout ce qu'il y a de plus beau et de meilleur.
Sa mère, j'entends. Moi, je sais bien que la vie ne peut pas être un conte de fées. »
Pourquoi Donna, vit-il aussitôt se dresser dans son esprit, la personne élégante et fine, le joli visage un peu railleur de Roger Lestienne. Ses impressions, ce matin, ne faisaient qu'aller et venir de l'ombre au soleil. On monta l'escalier et l'on fut accueilli tout de suite par le délicieux arôme du bon pot-au-feu, cette odeur confortable et rassurante qui se mêle aux impressions du dimanche, aux souvenirs de l'enfance bien gardée et des caresses maternelles. Plus confortable et plus rassurante que ne fut ensuite l'accueil de Madame Jean-Richard. Quand cette femme vertueuse et d'ailleurs bien élevée voulait être froide, elle l'était avec des nuances où il n'y avait rien à reprendre. Elle assura à Donna qu'il était le bienvenu, elle lui mit un couvert tout de suite, elle s'informa de son école et de sa santé.
« Est-ce amusant ?» dit une école. « Tes gamins disent-ils beaucoup de petites drôleries ?» questionnait Esther.
« Moi, je ne ferai des concours qu'en automne. Tu sais que j'ai passé 15 jours à Lausanne, après le cours de danse ?»«
Ah oui, ce cours de danse !» fit Donna, se contraignant à prendre un air indifférent.
« Tu as montré des dispositions, je pense. »«
Sans me vanter, je n'étais pas la plus gauche. Il faudra que tu apprennes aussi à danser, Donna. Si on ne sait pas, on reste dans un coin. »
« Je resterai dans un coin, dit-il. Je te regarderai, ça me suffira. » Madame Jean-Richard l'interrompit pour lui offrir encore un peu de riz.
« Du riz au fromage, tu l'aimais dans le temps, dit-elle, la voix froide, mais un sourire aux lèvres.
« Est-ce que Madame Christelin te fait bien des petits fricots ?»«
Je voudrais connaître Madame Christelin, dit Esther. »
« Accepteriez-vous, fit Donna avec empressement, de venir dîner avec moi dimanche prochain à la Buissonne ? Madame Christelin a déjà des hôtes, 8 ou 10. Cela intéresserait Esther. Il y a une dame genevoise, très cultivée, avec son petit garçon qui relève de maladie et qui fait une cure d'air. »
Madame Jean-Richard secoua la tête.
« Maman, ne secoue pas la tête !» s'écria Esther vivement.
« Nous n'irons certainement pas un dimanche, » dit sa mère d'un ton catégorique. « Je n'approuve pas qu'on donne de la besogne aux gens le dimanche. Je ne dis pas cela pour toi, Donna, mais 3 personnes de plus, et puis la dépense, tu n'es pas assez riche pour inviter 3 personnes. Mon mari ne consentirait pas. Et nous, avec le séjour d'Esther à Lausanne et tout le reste, nous avons assez dépensé pour la saison. Ainsi, tu vois, comme ce soit qu'on le tourne, »
Émère Jean-Richard trouvait en son fort intérieur qu'on aurait pu refuser avec plus de délicatesse. Il ne disait rien, crainte d'autres éclaboussures. Esther fronçait ses jolis sourcils. Depuis le mois d'avril, sa maman était si étrange, si tendue, qu'il fallait toujours marcher sur la pointe des pieds. On se remit à parler de l'école de Pertan,
tout en mangeant les belles cerises du dessert. « As-tu des nouvelles de ton père ?» demanda subitement Madame Jean-Richard. Puis elle leva les yeux sur sa fille. Elle répondit à son regard de reproche par une expression froide qui signifiait « Laisse, je sais ce que je fais. » « Oui, » répondit Donna, dont la gorge se serra subitement. « Il n'est plus chez Martin Coquart, tu l'as revu ?» poursuivit Madame Jean-Richard. « Prends encore quelques cerises. Ne refuse pas. Non, serre-toi mieux. Voici les plus mûres. Tu dis que tu as revu ton père ?»«
Oui, je l'ai revu. » »«
Pas dans ton école, j'espère ?»«
Chez moi. » »«
Et tu as dû l'héberger ? Ah, comme c'est fâcheux ! Cela fera un mauvais effet là-haut. »
De nouveau, ses yeux cherchèrent ceux de sa fille et lui dirent
« Oui, c'est fâcheux et il vaut mieux que tu le saches. »
« Je vais vous faire du café, » conclut Madame Jean-Richard en se levant. « Tu aimes toujours bien le café, Donna ?»
En elle-même, Esther se décidait à gagner une petite bataille.
« Pauvre Donna, » songeait-elle, « pourquoi le faire souffrir ainsi ? Ce n'est pas juste. Nous le dédommagerons, papa et moi. »
Et dès que sa mère fut sortie, elle dit, tout en mettant les jolies tasses dorées sur un plateau,
« Nous emmenons Donna à la promenade, papa. »
« Tu le traites en pays conquis, » fit son père en riant.
« C'est qu'il l'est conquis, » répondit Donna, riant aussi, mais avec un peu d'effort.
« Allons, allons, » fit le papa mal à son aise.
Quand Madame Jean-Richard rentra, portant la cafetière, elle trouva un trio silencieux.
« Ce garçon nous gâte notre dimanche, » pensa-t-elle, « mais du moins, personne ne pourra dire que je l'ai mal reçu. » Et ses offres hospitalières se firent plus pressantes. Donna dut boire 2 tasses de café, les sucrer plus qu'il n'eût voulu. Il dut mettre des noisettes dans sa poche en provision. Esther rassemblait son courage. Elle regarda la pendule et elle dit « Si nous voulons faire une longue promenade, il faudrait se mettre en route sans trop tarder. As-tu une préférence, Donna ? Veux-tu que nous allions à la Roche de l'If ? »
« Est-ce que Donna nous accompagne ?» demanda Madame Jean-Richard d'un ton clairement désapprobateur.
Donna comprit que faire le timide ou le délicat, ce serait déserter le camp d'Esther.
« Avec le plus grand plaisir, j'y comptais un peu, » ajouta-t-il même, un rien de bravade dans la voix.
« Vraiment, c'est que nous ne ferons qu'une très petite promenade, trop petite pour un marcheur comme toi. Je n'ai plus le souffle que j'avais l'été passé. Je crois bien que je n'ai pas le cœur tout à fait en ordre, » dit-elle plaintivement.
Le docteur l'avait donné à entendre, et, quoiqu'elle n'en crût rien, elle se servait utilement de cette petite alarme. Son mari la considérait avec étonnement, car elle avait déclaré le matin même qu'il ne fallait pas compter sur elle pour la promenade.
« Du reste, j'ai encore la vaisselle à laver, » reprit-elle, du ton outragé d'une ménagère à laquelle on propose un délit contre le code domestique.
« Mais maman, tu laisses très souvent la vaisselle du dimanche, » s'écria Esther impatientée. « Je laverai tout ce soir après souper. » Pendant qu'on discute, le temps passe.
Très bien, je vais mettre mon chapeau, dit la mère avec une douceur résignée qui remplit aussitôt de remords l'âme généreuse du mari et de la fille. De sorte qu'ils acceptèrent, qu'ils proposèrent même l'itinéraire navrant des petites promenades flâneuses qu'on fait le soir sur la route. Il n'était plus question de monter jusqu'à la Roche de l'If. Mais qu'importait à Donna ? Il marchait en avant, à côté d'Esther. Il causait avec une animation presque comparable à celle de la jeune fille. Elle lui racontait les merveilles de Lausanne et du parc de Beau-Rivage, où elle avait pris le thé un après-midi avec sa cousine.
« Aimes-tu mon chapeau ? Je l'ai acheté à Lausanne. On ne voyait que des narcisses partout. »
Donna se tourna vers elle pour contempler, non le chapeau, mais le visage délicieux dans sa jeune fraîcheur, le contour doux et tendre de la joue, ses yeux clairs où toutes les émotions passaient comme un reflet dans une onde. Il se disait « Personne ne comprend Esther comme moi. Personne. Ah, je la gagnerais quand même le monde entier se mettrait entre nous. » et cette espérance l'éclairait tellement que son propre visage en fut un instant comme transfiguré. Il eut un sourire qu'Esther n'avait jamais vu, une tendresse, une extase qui rayonnait. C'était un aimant d'une telle puissance qu'elle s'arrêta, presque effrayée. « Comme Donna est beau par moments, pensa-t-elle. » Son cœur se serra. Elle se souvint du soir de l'an, si proche encore, où elle avait dit « Embrasse-moi ». Mais elle n'avait rien promis, et plus tard, quand tout s'était gâté, elle avait loyalement, clairement établi la situation nette. « Tu verras, » dit Donna, comme s'il répondait à sa pensée, « tu verras comme je ferai mon chemin. Je crois à la volonté. Il y a des obstacles, mais n'as-tu pas remarqué déjà qu'une seule chose en se modifiant change la relation des autres choses alentour ? Tu ne comprends pas ? Un petit arbre pousse au milieu des buissons, il grandit, les buissons n'ont plus d'importance. Oui, j'aperçois vaguement le sens de ta parabole. Eh bien, pousse, bel arbre, et moi, qui ne serai jamais qu'un pauvre petit buisson, je t'admirerai d'en bas. « Ah non, » fit-il en soupirant, « ce n'est pas ce que je veux dire, tu le sais bien. » Madame Jean-Richard, au bras de son mari et à l'arrière-garde, s'énervait. Elle se déclara incapable de faire un pas de plus. On s'assit un moment sur le talus herbeux au bord de la route. Des groupes passaient. Donna tira son chapeau à un professeur accompagné de sa famille. Tout cela était fort ennuyeux, fort décoloré. Esther ne disait plus rien. Mais quand on se sépara, quand Donna tout seul regagna sa montagne, il emportait assez de bonheur et d'espoir pour des années, pensait-il.